bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Suite à des rencontres controversées, rappel des ambassadeurs de part et d'autre, Mohamed Danioko a recueilli quelques réactions à Bamako. Succès Mastrin, principal opposant nommé Premier ministre par le président de transition au Tchad, marquant un pas crucial vers la réconciliation et la transition politique à suivre dans notre fait marquant de la semaine. Les repentis de la secte Boko Haram au Tchad livrés à eux-mêmes sur le site de Kousseri 2. La pêche restait leur seul recours face au risque croissant d'attaque. C'est le constat de notre correspondant André Kodmajinkar. Focus sur le médecin héroïque de Gao, docteur Boubacar Omar Cissé, au service de sa communauté. Malgré l'occupation par les groupes armés en 2012, Boubacar Touré nous fera un compte rendu. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Les liens entre le Mali et son voisin algérien sont tendus. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs suite à la décision des autorités algériennes de recevoir des membres de la coordination des mouvements de la Zawad Sema et l'imam Mahamoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Cette action a été fortement critiquée par les autorités de la transition malienne. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
Garant de l'accord pour la paix entre les autorités et les groupes armés signataires de cet accord, l'Algérie a cru bon de recevoir des membres de la coordination des mouvements de la Zawad. Ibrahim Traoré, membre du parti Adouma, se range aux côtés du pouvoir pour pointer l'Algérie comme principal responsable de cette situation.
L'Algérie est censée être le garant de l'accord, l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. C'est dans cet esprit sûrement que l'Algérie à expliquer, en tout cas, avoir pris des initiatives. Mais ces initiatives ne devront en aucun cas être prises sans associer l'autre partie au conflit. Et surtout qu'il s'agit quand même d'un État souverain.
Modibo Soumaré, président du parti AFD, appelle lui à la vigilance et à trouver d'autres moyens de dénonciation, surtout avec un voisin stratégique comme l'Algérie.
Il est important qu'un pays avec lequel nous partageons 1400 km de frontières, qu'on puisse échanger et surtout privilégier le dialogue avec ce pays. Donc moi j'espère de tout cœur que le président de la transition va s'impliquer, que le premier ministre va s'impliquer, que le ministre des Affaires étrangères va utiliser tout son génie pour éteindre ce feu.
La crise est là. Les deux pays ont rappelé leur ambassadeur après que ceux-ci aient été convoqués par leur pays d'accueil. Il est temps maintenant d'aller à la résolution de cette crise naissante.
Il est important que les autorités maliennes et les autorités algériennes continuent leur dialogue et puis essayent de se comprendre pour dépasser ces problèmes-là. Parce que nous sommes vraiment contraints de vivre ensemble parce que nous avons quand même une frontière de plus de 1000 kilomètres.
Le Maroc, avec son initiative d'ouvrir l'Atlantique aux pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tente, selon des observateurs, de se positionner. Son apport ne serait pas le même que celui de l'Algérie, à en croire Alpha Hadi Koïna, spécialiste de la géopolitique.
Le Maroc est plus utile sur le plan économique. Mais en ce qui concerne le plan sécuritaire, l'Algérie, c'est le pays qui fait frontière avec notre pays. Et dont, en fait, il faut les rappeler aussi, c'est que les populations du nord du Mali ont un lien étroit avec les populations du sud de l'Algérie. Ce qui fait que, d'une manière, les familles qui sont au sud de l'Algérie et les familles qui sont au nord du Mali sont les mêmes. Et des fois, en fait, la majorité des cas, par exemple, à Kidal, il y a une bonne partie de la population qui a la nationalité algérienne.
Si les autorités de la transition ne se sont pas exprimées depuis le rappel des ambassadeurs, le gouverneur du district a cependant refusé d'autoriser la mobilisation prévue devant l'ambassade d'Algérie le vendredi dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Nous sommes en ligne avec Mohamed Danyoko pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir.
Oui, Mohamed, comment les autorités maliennes perçoivent-elles la rencontre entre ces représentants de la coordination des mouvements de la Zawad Sema et l'imam Mahmoud Diko avec les autorités algériennes sur les relations bilatérales?
Ce qu'il faut noter, c'est que déjà le fait que l'Algérie ait reçu la Sema et l'imam Mahmoud Diko a entraîné une crise entre les deux pays. Tout est parti d'abord de l'ambassadeur algérien au Mali qui a été appelé par le ministre des Affaires étrangères pour l'écouter. Et ensuite, l'Algérie a fait la même chose. Et plus, l'Algérie a tout de suite rappelé son ambassadeur ce que le Mali a aussi fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le fait pour l'Algérie de recevoir la CMA et l'imam Mahmoud Diko a été très mal pris par les autorités de la transition. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir dans leur communiqué, parce que pour eux, aujourd'hui, il fallait que l'Algérie, en tout cas, prenne langue avec les autorités de la transition avant toute initiative allant dans le sens de parler de l'accord de paix.
Mohamed, y a-t-il des discussions en cours ou prévues pour résoudre ce différend diplomatique et rétablir des relations plus stables entre le Mali et l'Algérie?
Certainement que les deux pays vont parler dans les jours à venir, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Même si dialogue il va y avoir, ça va être sur d'autres aspects, pas forcément autour de l'accord de paix dont l'Algérie est le garant, parce que le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, le colonel Assimi Goïta s'est prononcé en faveur d'un dialogue interne pour mettre un terme à l'insécurité. Et une annonce qui, pour beaucoup d'observateurs, consacre la fin de l'accord d'Alger, parce que le colonel Assimi Goïta a mis l'accent sur ce qu'on pourrait qualifier de reprise en main par les autorités de la transition du processus pour la paix et la réconciliation dans les pays et surtout dans le Nord. Et donc, je cite ce qu'il a dit explicitement et qui fait dire à beaucoup que c'est fini pour cet accord-là. Ce qu'il a dit, je cite, « J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances au dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. » Fin de citation. Alors Eric, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que le colonel Assimi Goïta et toutes les autorités de la transition penchent désormais pour un dialogue intermalien, ce qui de facto met fin à l'accord de paix issu du processus d'Alger.
Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires sur notre page Facebook. Yacouba Traoré dit ceci, les discussions sur la situation au Mali ne peuvent se faire sans la présence des autorités maliennes. La présence de Diko soulève des interrogations significatives qui nécessitent une réflexion approfondie des Maliens. Sylvain Caboré, les tensions entre Bamako et Alger se manifestent par le manque de reconnaissance des autorités maliennes envers le rôle crucial d'Alger dans la signature des accords pour stabiliser le Mali. En ce qui concerne l'offre du Maroc aux membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est une opportunité dont nous devrions être fiers car elle contribuera à instaurer un équilibre dans la sous-région. Enfin, Francis Travolta, il dit ceci, les États de l'Alliance des États du Sahel doivent rester vigilants vis-à-vis des pays du Maghreb car ces derniers pourraient sacrifier les intérêts du reste de l'Afrique pour leurs propres bénéfices, sans se considérer comme faisant partie du continent africain. Nous approfondissons la discussion pour dépassionner le débat avec notre analyste Ibrahima Khan, qui dirige le programme de plaidoyer pour l'Union africaine au bureau ouest-africain de l'ONG au Siwa. Il est à Dakar, au Sénégal. Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous avez suivi donc les principaux points de désaccord entre les autorités maliennes de la transition concernant l'initiative algérienne de recevoir des représentants de la CMA. Comment, selon vous, cette situation diplomatique entre le Mali et l'Algérie pourrait-elle impacter la stabilité régionale et les initiatives de paix au Sahel?
Alors, moi, je trouve que c'est une brouille entre l'Algérie et le Mali. Il y en a eu par le passé, il y en aura par dans le futur, et que c'est une brouille qui est liée au contexte actuel, parce que le Mali veut coûte que coûte recouvrer la totalité de son territoire qui était occupé par des groupes rebelles, alors que l'Algérie veut encore jouer les intermédiaires entre ces groupes rebelles et le gouvernement. Donc, ils peuvent ne pas s'entendre sur l'essentiel, et ça peut créer une brouille. Mais comme l'a dit tout à l'heure un de vos interlocuteurs, ni l'un ni l'autre n'a intérêt à ce que cette brouille-là se transforme en crise. Le Mali partage 1400 kilomètres de frontière avec l'Algérie et les populations sont les mêmes. Donc si le Mali veut une fin à la crise actuelle, il a intérêt à ce que l'Algérie contribue grandement à la fin de cette crise. Donc je pense que c'est une brouille qui peut s'expliquer par la volonté des dirigeants maliens de mieux contrôler la situation, mais c'est une brouille pour moi qui va passer bientôt, puisque quand on va discuter des choses les plus importantes, il n'y a pas de raison pour que l'Algérie puisse apporter son aide à la solution de la crise.
Alors, Ibrahima Kane, vous avez suivi les propos tout à l'heure de notre correspondant Mohamed Danioko, qui a cité le président de la transition, le colonel Goïta, qui veut rapatrier ce dialogue au niveau interne et ne veut plus justement peut-être l'apport de l'Algérie. Quels pourraient être les intérêts stratégiques du Mali à maintenir des relations tendues avec l'Algérie, notamment dans le contexte de lutte contre le terrorisme et pour le développement économique?
Alors, ça va être compliqué pour les autorités maliennes. Le discours du président du 31 décembre marque une volonté des Maliens de vouloir contrôler davantage le processus de paix, ce qui, fondamentalement, est une bonne chose. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'une crise qui est une longue crise, une crise qui a ses racines, pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région, on a besoin d'un autre acteur qui peut servir d'intermédiaire. Et dans le contexte actuel, surtout pour ce qui concerne la communauté Touareg, il n'y a que l'Algérie qui peut jouer un rôle fondamental dans cette crise-là. Et donc, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une brouille. Les Maliens et les Algériens ne sont pas encore d'accord sur la meilleure méthode à utiliser pour solutionner la crise, d'autant plus que l'armée malienne maintenant s'est beaucoup investie dans le nord du pays pour récupérer les terrains perdus. Ça crée des frictions, mais c'est impossible pour les Maliens de trouver une solution interne à la crise sans la participation du voisin algérien. C'est impossible. Par le passé, ils l'ont essayé, ils n'ont pas réussi, ils ont été obligés d'aller à Alger et avoir des accords. Peut-être que dans le processus qui va venir, il y aura la renégociation des accords d'Alger, parce que le gouvernement militaire malien l'a toujours a toujours insisté sur ce volet. Peut-être que cette crise-là va ouvrir la voie à une renégociation des accords, des fameux accords d'Alger.
Ibrahima Kane, quel impact l'initiative du Maroc visant à ouvrir l'Atlantique aux pays du Sahel pourrait-elle avoir sur les relations régionales et les équilibres géopolitiques, notamment par rapport à l'influence historique de l'Algérie dans cette région?
Alors, l'initiative marocaine, aussi intéressante qu'elle puisse être, à mon avis, est vouée à l'échec. D'abord parce que les pays en question, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, n'ont pas de frontières directes avec le Maroc. Donc ça pose la question d'une intermédiation, soit par la Mauritanie ou bien par l'Algérie et le Sahara occidental, la RASD, et ça va être très difficile. Mais plus fondamentalement, c'est que que parmi les États qui ont créé cette coalition du Sahel, il y en a un, particulièrement le Niger, qui a des rapports tellement profonds avec l'Algérie que je vois mal le Niger changer cette orientation politique pour aller se jeter dans les bras du Maroc, surtout dans le contexte de rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Je pense que c'est une idée qui est avancée, mais c'est une idée dont la matérialisation, à mon avis, va être très, très, très difficile du point de vue géographique, mais aussi du point de vue géopolitique, parce que l'Algérie fera tout pour bloquer une initiative de cette nature-là. Elle ne laissera jamais le Maroc empiéter sur ses relations avec un pays comme le Niger et même dans une moindre mesure avec le Mali, parce que le Mali et l'Algérie ont des relations qui datent de la période de la guerre de libération de l'Algérie. Et donc le Maroc arrivera difficilement, même si l'offre est vraiment intéressante, arrivera difficilement à se frayer un chemin dans ces relations-là, dans cette zone géopolitique du Sahel.
L'analyse et la perspective de Ibrahima Kane, qui dirige le programme de plaidoyer pour l'Union africaine au bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa à Dakar. Monsieur Kane, merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Tchad, les repentis de la secte Boko Haram établis sur le site de Kousseri 2 dans la circonscription administrative de Bagassola, dans la province du Lac, se retrouvent sans assistance depuis plusieurs mois pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils sont contraints de se tourner vers la pêche, mais cette activité expose à de nombreux risques d'attaque de la part des bandits qui sévissent dans cette zone insulaire. De retour du Lac, André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait en état des lieux. Suivez.
Ces déplacés internes estimés à près de 4000 personnes sont installés sur le site nommé Kousseri 2 à quelques kilomètres de la ville de Bagassola, département de Kaya, depuis 2015. Ils ont été pris en charge par les humanitaires opérant dans la zone du lac au même titre que les réfugiés fuyant les atrocités de Boko Haram. Mais les choses sont devenues compliquées depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, comme en témoigne un partenaire humanitaire qui a requis l'anonymat.
Ça fait déjà 9 mois qu'ils n'ont pas réussi un courant même de sorgho ni des assistances en cas. Ni les NFI, en tout cas les couvertures, les LENAT. Et bien avant que Boko Haram apparaisse dans les lacs, ces gens que vous voyez vulnérables devant vous, là, ils étaient même des grands commerçants, des cultivateurs aussi, des éleveurs par excellence. Et maintenant, avec le problème de Boko Haram et les GAN, voilà, ils se retrouvent dans les sites.
Qu'est-ce que vous appelez GAN?
Les GAN, c'est les groupes armés non étatiques.
Les GAN, les groupes armés non étatiques, les hippopotames, les poissons ou encore les singes, ce sont les non codés attribués aux éléments de la secte Boko Haram par les agents humanitaires dans la province du Lac. Bien que décapité à en croire les autorités tchadiennes, cette nébuleuse qui opte pour une guerre asymétrique change toujours de stratégie.
Si on parle de Boko Haram, ils viennent en masse, mais maintenant c'est de couper de route. On part dans un champ ou bien où on égorge 2 personnes, 3 personnes, on enlève des femmes ou bien on enlève des hommes, c'est comme ça qu'ils font.
Et c'est le mode opératoire exercé sur les retournés du site de Kousseri 2 et bien d'autres personnes qui tentent de se reconvertir dans la pêche pour sa survie, informe à VOA Afrique une autre source.
Là où ils partent pour pêcher, il n'y a pas la sécurité, il y a des gens qui les attaquent encore. Avant, là, ils font des incursions et puis des irruptions. Mais là, c'est dans la zone de culture ou bien dans la zone de pêche, ils partent. S'ils trouvent des gens, s'ils fuient, tant mieux. Dans le cas contraire, on te gorge et puis on ramasse tout ce que tu as là. Ce mois de décembre, il y a eu quand même une attaque, les 5, dans la zone de Kofoua, dans un village du nom Bikiram, dans la zone de Kangalam.
Il y a eu des morts,
donc ? Il y a eu des morts, oui. Ils ont égorgé 5 personnes et puis 2 personnes aussi enlevées, et c'est des hommes.
Pour Abdoulaye Sall et Ibrahim, délégué de la CENAR, la Commission nationale d'accueil des réfugiés et retournés, toutes ces attaques se passent dans les zones non contrôlées par le gouvernement tchadien.
Depuis le début de l'année, il n'y a pas encore eu une attaque des gangs sur la terre ferme. Il y a seulement eu une seule attaque à Salia, ça c'est dans le Fouli. Mais dans la zone insulaire, il y a toujours des attaques. Généralement, le groupe qui attaque beaucoup plus les pêcheurs qui bravent maintenant la zone rouge pour aller pêcher. Il y a un corridor de sécurité entre le lac et puis la terre ferme. Mais il y a des gens qui contournent ces camps militaires-là pour aller sur le lac et aller pêcher. Et dans le lac, il y a encore quelques poches de résistance de ces gangs-là qui sont là.
Information confirmée par le préfet du département de Kaya. Hassan Agar a fait observer que les éléments des groupes armés non étatiques sont quelquefois des gens de la localité qui connaissent bien la zone. Ils font des incursions, enlèvent les personnes et volent plusieurs têtes de bétail de ces pauvres personnes en 2023. André Kordouma Djingar, de retour de la province du lac N'Djamena, pour VOA Afrique.
Restons au Tchad pour parler de cette nomination inédite. Succès Mastra, ex-opposant virulent, devient Premier ministre sous le gouvernement de transition symbolisant la réconciliation. Son retour d'exil et son rôle clé marquent un tournant vers un gouvernement civil. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Djegoltar Armand Gambay de Electron TV. Il est le PDG de Electron TV, notre station partenaire en N'Djamena. Monsieur Armand, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelle a été la réaction de la population tchadienne et des différents partis politiques suite à la nomination de Succès Mastra en tant que Premier ministre, surtout après son opposition virulente au régime militaire?
Alors, je choisirai simplement deux mots pour caractériser ce que j'observe. Je dirais donc... désillusion ou désenchantement pour une frange des militants, des transformateurs qui ne s'attendaient pas à ce revirement, mais aussi soulagement pour une bonne partie des gens de la population qui attendaient le changement et qui voulaient quelque chose qui puisse marquer le fait que leur soupir soit entendu. Par contre, la classe politique, je dirais, c'est un peu un rire jaune ou un sourire sarcastique pour dire bon, voilà, l'opposant virulent est dans la mangeoire. Donc, les pronostics pour les politiques, pour la grande classe politique, c'est que voilà, de toutes les façons, ce qu'on attendait, ce qu'on redoutait est venu. Voilà un peu, donc, désenchantement pour une partie des fans des transformateurs qui ne voulaient pas encore de ce stade de voir leur leader rentrer déjà dans le gouvernement comme Premier ministre, parce que j'attendais au perchoir. Je dirais aussi satisfaction pour une bonne partie de la population de voir cet homme-là venir accepter la posture, parce qu'ils estiment que ça permettra de changer les choses. Mais pour la classe politique, il n'y a rien de nouveau. Il nous a regagné dans la mangeoire.
Alors, il y a eu ces opinions divergentes ou des débats dans les médias concernant cette décision. Comment la presse locale a-t-elle couvert cette nomination?
Il faut dire que la presse locale est prise de court parce que c'était quelque chose d'inattendu. Et pendant qu'elle s'apprêtait donc à vouloir donc couvrir, la surprise a doublé de mise parce que finalement le gouvernement a été déjà aussi annoncé aujourd'hui. Et ce gouvernement ne reflétait pas du tout un grand changement soupiré ou bien un grand changement que pouvait inspirer la nomination du Premier ministre. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que pour le moment, la presse observe encore et peut-être les langues seront déliées à partir de demain, après-demain, pour faire des analyses en ce qui concerne la composition du gouvernement et peut-être chercher à comprendre les en-dessous de la composition du gouvernement.
Alors, revenons sur cette nomination. Quels sont les défis perçus ou mentionnés par les analystes politiques locaux quant au rôle de Succès Mastra en tant que Premier ministre dans cette période de transition politique au Tchad?
Bon, moi, je dirais d'abord que le premier défi, il est d'ordre personnel pour Mastra lui-même. Parce qu'en tant que Premier ministre de la transition, pour les 10 mois qui restent, il doit donc mettre en musique les quelques conclusions du dialogue qui, en son temps, ne faisait pas, n'est-ce pas, l'objet de leur adhésion ou de son adhésion. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est aussi un effort de pouvoir en intégrer cette réalité, parce que le dialogue fait partie de l'histoire politique du Tchad. Donc, il y a un défi de pouvoir s'adapter, mais je pense qu'il est quelqu'un qui a les aptitudes pour une résilience politique à ce niveau. La deuxième chose, le défi, c'est de faire en sorte, c'est de contribuer à un retour à l'ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel qui était attendu par les transformateurs comme une échéance, mais en même temps aussi cet ordre constitutionnel pour lequel ils vont devenir aussi des architectes. Donc en 10 mois, c'est de faire en sorte que les élections aient lieu et de pouvoir avoir des élections transparentes, des élections inclusives, des élections, je dirais, qui reflètent une avancée dans la démocratie. Et là, le langage qui a été tenu doit aussi être mis en pratique avec des problèmes. Nous avons l'école qui est au bord de la rue, il faut la remettre en place. Les problèmes de l'électricité, ce sont des problèmes de la sûreté de vie, les problèmes, je dirais aussi, du football, les problèmes de la jeunesse, ces problèmes qui ne vont pas attendre les élections, mais qui devraient trouver des solutions entre temps.
Merci beaucoup, Djengoltar Armand Gambay. Je rappelle que vous êtes PDG de Electron TV, notre station partenaire. N'Djamena, merci beaucoup de votre apport dans cette émission de Focus Sahel. Docteur Boubacar Omar Cissé, médecin malien, chef du service des urgences à Gao, s'est distingué pendant l'occupation de cette ville en 2012 par les djihadistes. L'hôpital régional Agandoumbou Touré, transformé en base militaire par la Oumoudjao, a été dévasté lors de la prise de cette ville. Grâce à l'engagement des médecins locaux regroupés au sein de l'association Action Humanitaire Gao, notamment le docteur Boubacar Omar Cissé, cet établissement a pu renaître de ses cendres pour servir à nouveau la communauté malgré les dangers encourus lors de cette période de trouble. C'est un reportage que nous propose notre correspondant à Gao, Boubacar Touré. Suivez.
Surpris par la tournure des événements, avec leur corollaire de violence, les élèves et les enseignants étaient contraints d'abandonner les écoles alors que nous étions seulement à quelques semaines des examens de fin d'année en 2012. Donc, comment était venue cette belle initiative du retour des enfants à l'école? Amadou Sidi Touré, président de la commission éducation.
Je me suis senti interpellé et comme j'avais cette conviction qu'on pouvait organiser un jour les examens à l'intention des candidats, j'ai tenté d'organiser quelque chose à l'intention des candidats, donc au DF, au CAP, au BT et au baccalauréat. Ils ne sont restés à l'époque que les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de les transporter ailleurs pour aller faire des inscriptions. Pour ma part, j'ai dit que c'était les moments les plus exaltants de ma carrière parce que je me sentais utile à ma communauté.
Rien ne pouvait se faire à cette époque sans l'avis des maîtres des lieux. C'est ainsi que la commission éducation avait demandé aux élèves et aux enseignants de respecter la consigne donnée par les djihadistes.
Les djihadistes nous avaient effectivement demandé de ne pas mélanger les filles et les garçons, de faire en sorte qu'il y ait une classe de filles, une classe de garçons. Quand on ne peut pas faire une classe de filles et une classe de garçons, de faire juste une rangée de filles et une rangée de garçons. Nous avons reçu cette consigne et nous l'avons respectée.
Pour toutes les personnes interrogées sur ce dossier, Amadou Sidi Touré était une référence. Suivons ce témoignage.
Pour les fondamentales, pour l'enseignement technique professionnel, pour l'enseignement secondaire général, c'était Amadou Sidi la référence. C'est sous sa responsabilité que nous avons dressé les emplois du temps. C'est sous sa responsabilité que nous avons engagé les enseignants qui devraient tenir ces classes-là.
Amadou, il était d'abord le fonctionnaire cadre A, qui n'était pas obligé de rester, mais pour, je ne sais pas, patriotisme, attaché à cette terre-là, il a décidé de rester.
Je remercie un homme, sous son leadership, il a pu vraiment organiser beaucoup des enseignants. C'était Amadou Sidi qui a beaucoup fait dans cette bataille.
Nous retiendrons que la commission éducation créée en 2012, au moment de l'occupation de la région par des groupes armés, a permis à plus de 3000 élèves à se présenter aux examens spéciaux de Sévaré la même année. De Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans son voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Madelakis a été avec vous au micro. Firmin Koyaweda, Fatouma Limas Kalala et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.
Et vos contributions sont les bienvenues.
Laissez-nous vos commentaires.